dès que je suis enseignant à l'université. Donc aujourd'hui, je suis professeur des universités. Et le but de ma conférence ici, c'est un petit peu de venir vous parler suite à un master, puisque j'ai un master professionnel qui s'appelle Gestion de l'environnement industriel. Donc ce master a été créé en 1994, donc ce n'est pas aujourd'hui. On a déjà diplômé 467 étudiants master qui est en alternance depuis l'année dernière. Donc la gestion de l'environnement industriel est aujourd'hui une clé de l'industrie. Vous voyez ce que j'ai marqué, révolution industrielle. Donc on va revenir 130 ans en arrière, puisqu'on revient en 1870. On a parlé en 1870 de la révolution industrielle. Donc j'ai vraiment le goût de dire qu'aujourd'hui on va vivre une nouvelle révolution industrielle et que les défis à relever sont des défis qui sont particulièrement motivants et intéressants. Et les acteurs de ces défis, ce sera vous. Donc je vais vous mettre devant vos responsabilités, puisque quand il faudra faire les choix, quand il faudra mettre en application les nouvelles, voies de l'industrie face à des défis, face aux grands problèmes environnementaux qu'on rencontre aujourd'hui, face à la pénurie des matières premières, par exemple, eh bien, il faudra prendre un certain nombre de décisions. Et ces décisions, c'est vous qui les prendrez. Donc, on va vous former pour ça. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de... Vous êtes des tout jeunes sortis du moule. Et puis, quand vous sortirez de votre formation, vous aurez une aptitude à décider. Et c'est vous qui prendrez les décisions de demain. Donc, les défis, les enjeux... Le but de cette conférence, c'est surtout de solliciter chez vous, de susciter chez vous des questions. Je n'ai pas vocation à vous donner les directives que vous devrez appliquer demain ou après-demain. Donc, les 30 transparents que je vais vous présenter sont issus d'un cours. Je fais un cours qui s'appelle Génie de l'environnement industriel et développement durable. Ce cours est enseigné en master et c'est un cours de 44 heures. Donc, vous imaginez que j'ai dû faire des efforts considérables pour sortir 30 transparents de plus de 350 transparents qui durent 44 heures. Donc ça fera partie aussi de votre défi de demain, quand vous devrez prendre un dossier, le concaténer, et puis vous aurez 10 minutes en revue de direction pour le proposer. Donc il faudra sortir les mots-clés, les enjeux-clés, et il faudra être extrêmement précis et très convaincant. Donc ça, c'est le but du jeu. Et ça s'apprend avec le temps, bien sûr, avec l'expérience. Donc la question, c'est, l'industrie est-elle un avenir ? Donc, si vous êtes là, je suppose que vous allez me répondre oui. Enfin, je l'espère. Vous en êtes convaincu qu'elle a un avenir ou pas, l'industrie? Donc, c'est évident qu'il faut en être convaincu. Parce que si on n'est pas convaincu, on s'arrête là, on s'en va et on laisse mourir l'industrie. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, moi, je me mets toujours dans la position, vous avez une bouteille, elle est soit à moitié vide, soit à moitié pleine. Pour moi, elle est toujours à moitié pleine. Elle n'est jamais à moitié vide parce que les enjeux sont très importants à relever. Même si l'information vous matraque en disant que l'industrie est moribonde, qu'il n'y a plus rien à faire en France, c'est faux. L'industrie est toujours créateur d'emplois. L'Europe est toujours le numéro un de l'exportation industrielle. Même si la Chine commence à prendre de la place, on a une place importante à prendre. Et surtout, on a une place d'avenir dans les enjeux, dans les technologies de demain. Il ne s'agit pas de prendre des technologies moribondes, il s'agit de les moderniser et ça sera votre rôle. Dans une révolution, je vais insister, mais c'est l'enjeu de la chose. Donc, pourquoi l'industrie? Un petit peu d'histoire. Eh bien, tout simplement parce que l'industrie, c'est quelque chose qu'on n'a pas mis en place par hasard. C'est parce qu'il y a eu des besoins et il a fallu répondre aux besoins de l'homme. Donc, pour répondre aux besoins de l'homme, quelques mots-clés, se nourrir, s'habiller, progresser, gérer les changements. Donc on est en plein dedans, il faut qu'on gère les changements là assez rapidement, face aux enjeux et face aux défis à relever. Donc l'industrie, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour notre bien-être. La révolution industrielle depuis 1870 nous a apporté un confort, nous a apporté la technologie, nous a apporté les téléphones portables, et puis je pourrais en mentionner beaucoup. Le confort dans lequel on vit, c'est grâce au développement industriel, c'est grâce à le pont qui existe entre la recherche et l'industrie. Et c'est un petit peu notre rôle, nous industriels, nous universitaires. Vous voyez que je commence à m'identifier aux industriels parce que pendant très longtemps j'ai dirigé un labo de recherche. Et puis à la suite de cela, et bien dans les regroupements, je me suis recentré sur le transfert technologique. Donc à Grenoble, on a un département qui est extrêmement actif dans ce domaine et on essaie d'identifier parmi les axes de recherche qui sont développés à l'université, un certain nombre d'idées, un certain nombre de choses qui peuvent être brevetées, qui peuvent être appliquées dans l'industrie. Et on va même beaucoup plus loin, on crée des sociétés. Et de mon laboratoire, j'ai une société qui est née Et cette société, elle a aujourd'hui 24 salariés, elle fonctionne parfaitement bien, elle va dépasser 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est extrêmement pérenne et c'est tout à fait notre but. Alors pas tous les chercheurs, mais pour moi je suis particulièrement motivé pour transférer ces technologies et pour donner du travail, pour évoluer vers demain. Donc se protéger et nourrir sa famille, ça, ça date de la préhistoire. Hein, quand on essaye de voir l'histoire, je ne vais pas refaire toute l'historique de l'industrie, mais quelques mots-clés, eh bien on se rend compte que il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et que cette préhistoire, eh bien, donne les premiers signes de l'industrie, donc les premiers signes d'activité industrielle. Alors elles sont essentiellement tournées autour des outils de chasse, autour de l'habillement, et puis très rapidement, les outils de chasse. Est-ce que vous savez comment on est passé de l'âge de pierre à l'âge de fer? Est-ce qu'il y en a qui le savent? C'est le hasard qui a fait ça. C'est le hasard. On a un certain nombre de certitudes aujourd'hui. Vous savez que l'homme est sorti, je dirais, de la profonde préhistoire vers le temps moderne quand il a pu maîtriser le feu. Parce que pour lui, le feu, ça a été une évolution considérable de la nourriture, puisqu'il a pu faire cuire sa nourriture, il est passé du cru au cuit, et c'est là vraiment que les choses se sont précisées en termes de société, en termes sociétaux. Eh bien, l'acier a été découvert par hasard, puisque pour garder le feu, on transportait le foyer, et pour transporter le foyer, on transportait les braises. Et pour les transporter, à l'époque, on les transportait dans des pierres, et il se trouve que probablement, les pierres étaient du minerai de fer à l'époque. Donc, vous êtes des futurs industriels, vous savez comment on passe du minerai de fer au fer. Le minerai de fer, c'est quoi? C'est l'oxyde de fer, et il faut le transformer en fer, donc il faut le réduire. Et dans l'industrie, on n'a pas 50 réducteurs, on a soit l'hydrogène, soit le carbone. Donc le carbone, c'est celui qui est le plus utilisé, et donc quand on met du carbone à plus de 800 degrés en présence d'oxyde de fer, ben, la thermodynamique est particulièrement favorable, et on va fabriquer du fer et du CO et du CO2. C'est exactement ce qu'on fait dans les hauts fourneaux. Donc au fond du foyer, ils ont découvert un matériau qui était nouveau, et ils se sont rendus compte que ce matériau était extrêmement ductile, et donc on pouvait le forger assez facilement pour fabriquer les premiers outils. Donc ça, ce sont les premiers, je dirais, les toutes premières preuves de l'activité industrielle, puisque ça, après, ça s'est particulièrement généralisé entre les différentes personnes. Donc l'Antiquité, ben, l'Antiquité, elle a été particulièrement dominée par la filature du genêt. Alors si je vous dis ça, c'est parce que dans les années 50, on a complètement oublié la viscose. La viscose, c'était quelque chose, c'était le foyer à Grenoble. Hein, la viscose, c'était des tissus qu'on faisait à partir de tissus naturels, dont le genêt fait partie. Et puis on est passé au nylon. Le nylon, c'est à partir du pétrole, dans les années 60, au moment où la révolution du pétrole, la carbochimie, a été supplantée par la pétrochimie, eh bien on a oublié complètement les filatures de fines naturelles, comme le genêt, et aujourd'hui on commence à revenir vers ce qu'on appelle les fibres vertes. Donc ça, c'est une industrie qui va être particulièrement florissante probablement demain. Hein, donc le genêt, j'en parle, c'est très vieux. Et puis la laine, ça reste d'actualité. Donc c'est les premiers signes de l'industrie. Alors le Moyen-Âge ensuite, ça a été tous les moulins qui ont permis de moudre des grandes quantités de grains, donc d'être, plus industriel, hein, d'avoir quelque chose qui commence à avoir des cadences et de la quantité. Et puis au XIIIe siècle, donc, on voit apparaître les sources d'énergie, donc la nécessité d'énergie dans les procédés. On peut déjà parler d'embryons de procédés industriels. Et donc là, c'est évidemment le carbone, le charbon qu'on utilise. Le charbon, on le trouvait assez facilement, donc on pouvait l'exploiter de manière simple. Donc on se rend compte ensuite que l'industrie de l'armement a beaucoup dominé le temps, jusqu'à la Renaissance, et puis là on va arriver à l'époque moderne. Hein. Donc l'époque moderne, c'est le 18e siècle, 17e, 18e siècle. Donc les grandes manufactures. Alors, les grandes manufactures, par exemple, les verres de Rueil, qui sont aujourd'hui Saint-Gobain. Donc, Saint-Gobain, c'est vieux du XVIIe siècle, et ça a passé un petit peu les différentes époques et les différentes révolutions, et il est fort probable que ça continue à perdurer, puisque Saint-Gobain s'est mis notamment sur le marché de toute l'isolation thermique. Donc, il y a un marché extrêmement important dans l'avenir. Donc, ensuite, 18e et 19e siècle, eh bien, 1870... Je vous l'ai dit en préambule, révolution industrielle. Donc là, la production va vraiment s'organiser autour de procédés qui... Donc 1870, 1890, c'est les grands procédés comme le procédé Raoult. Vous connaissez le procédé Raoult? On n'est pas loin de Gardanne. Qu'est-ce qu'on fait à Gardanne? Et qu'est-ce qu'on exploite un petit peu dans le coin là? Alors le charbon, on brûle à Gardanne. Mais dans le coin, on exploite un minerai qui est très important, qu'on appelle la bauxite. Alors la bauxite, qu'est-ce qu'on en fait ensuite de cette bauxite? Par le procédé Rolt, on l'amène dans la région grenobloise, puisqu'il y a l'énergie. Hein, vous savez que la houille blanche, l'électricité d'origine hydraulique, elle est née tout près de Grenoble, dans un tout petit village qui est à une vingtaine de kilomètres de Grenoble. Et donc la vallée de la Maurienne a été une des premières vallées industrialisées. Donc on a amené la bauxite pour faire une réduction électrolytique, donc la réduction qui permet de fabriquer l'aluminium. Donc l'aluminium, on a besoin de bauxite, mais on a besoin d'autres composés. Et je vous donnerai comme exemple tout à l'heure de l'évolution du procédé Herault qui date de 1890 à peu près, et qui est aujourd'hui un procédé moderne qui a permis de faire à peu près 40% d'économie sur l'électricité pour réduire l'aluminium. Combien, est-ce que vous savez combien il faut de kilowatts pour faire une tonne d'aluminium? Ça fait partie de la culture industrielle, ça, hein? Donc il faudra faire attention. Il faut 13 500 kWh pour fabriquer une tonne d'aluminium. Il y a 25 ans, il fallait 22 000 kWh. Donc on a effectivement beaucoup augmenté le rendement du procédé. Je vous expliquerai en la fin comment on a fait, hein, puisque c'est des exemples un petit peu de développement durable. Et ça a permis de réduire considérablement l'énergie. Si vous réduisez l'usine de Saint-Michel de Maurienne, de Saint-Jean-de-Maurienne, c'est l'équivalent de à peu près la ville de Marseille en électricité, ce qu'elle consomme. Donc quand on fait 3-4% d'économie, ben on fait un grand nombre de mégawatts d'économie. Donc, apparition des chemins de fer, alors toute la partie moderne, les communications qui sont aujourd'hui fondamentales dans notre société, hein, sans communication, sans Internet, sans tous ces outils qu'on a aujourd'hui, on n'aurait pas pu mondialiser l'industrie comme elle est mondialisée aujourd'hui. On échange avec l'autre bout du monde en quelques secondes grâce aux communications. Elles sont nées à la fin du 19e siècle. Alors évidemment, au début, peut-être que c'était le nuage de fumée ou je ne sais quoi, mais on arrivait à communiquer. Et puis, c'est important, l'apparition des richesses liées aux investissements. Ça va expliquer pourquoi l'industrie, pendant plus d'un siècle, elle a été basée sur la productivité et sur l'économie uniquement. Et aujourd'hui, c'est fini. Ça, c'est un âge qui est révolu. Il faudra que l'industrie fixe un petit peu ses objectifs dans d'autres domaines. On en parlera dans 2 minutes. Donc, la fin du 19e siècle, c'est la naissance de l'industrie. C'est l'arrivée des grands procédés modernes. Donc, tous les procédés que vous entendrez, les procédés de la carbochimie, pétrochimie, c'est un petit peu plus récent. Mais les procédés carbochimie, tous les procédés de réduction électrolytique, acier, réduction par exemple du silicium, même si le silicium c'est quelque chose qui est assez récent en utilisation avec la microélectronique, on utilisait le silicium dans beaucoup de domaines métallurgiques, donc on avait besoin de faire des réductions électrolytiques, donc les grands procédés sont nés à la fin du 19e, début du 20e siècle. Donc on n'a pas changé grand chose depuis. C'est bien pour ça que la révolution industrielle, la deuxième, est arrivée, puisqu'il faudra changer les procédés pour répondre à de nouveaux objectifs. Donc l'industrie a permis l'accès au confort, elle a permis l'accès au bien-être, aux technologies, et je pourrais en mettre une grande quantité, on ne va pas s'appesantir là-dessus. On a pérennisé la fabrication autour d'un certain nombre de grands objectifs, on a augmenté les volumes, on a augmenté les cadences, et on a mis en place des productivités extrêmement performantes. Hein, je vous donnais l'exemple de l'aluminium. On a constamment travailler dans le sens de la productivité. Productivité sur ce plan économique. C'est-à-dire qu'on est compétitif, c'est encore plus vrai aujourd'hui dans l'ouverture à la mondialisation, si le procédé permet de dégager des bénéfices, bénéfices qui permettent d'être investis dans l'industrie, hein, ça c'est le cas idéal, pour encore être plus performant sur le plan économique. Mais évidemment, comme tout système, on atteint des limites assez rapidement. Donc, investissements en R&D qui sont croissants, l'industrie met beaucoup d'argent en recherche-développement, c'est très important, elle en met encore plus aujourd'hui, parce que si on veut être compétitif demain face aux grands enjeux mondiaux, ben il faudra investir de l'argent en R&D. Alors, quelle politique industrielle aujourd'hui à relever? Eh bien, c'est toujours répondre aux besoins de l'homme, c'est évident, on a des besoins, on crée des besoins, mais on a aussi des besoins, je dirais, il faut identifier un certain nombre de besoins de base dont on a besoin, donc qui sont nécessaires pour notre vie de tous les jours. Et puis, on crée aussi un certain nombre de besoins. On a créé Internet, on a créé des outils, on a créé le téléphone portable. Téléphone portable, il y a 15 ans, ça n'existait pas. Aujourd'hui, tout le monde en a, ou presque. Hein, je suis à peu près sûr que si je fais un état des lieux ici, il y en a peut-être un ou deux statistiquement qui n'en auront pas, mais tout le monde a son téléphone portable. Donc on a créé un certain nombre d'outils pour répondre à des enjeux modernes. Donc, la production, vous êtes sensible au fait qu'il faut toujours produire à moindre coût, donc il faut toujours être compétitif, et ça, ça restera toujours vrai. C'est-à-dire que si le voisin, il produit moins cher que vous, un produit qui est aussi performant que le vôtre, ben c'est évident, vous mettrez la clé sous la porte. Donc ça, ça veut dire qu'il faut être extrêmement performant dans ce domaine-là. Il faut gérer les flux matières. Ça aussi, ça fait partie de des objectifs de l'industrie. Il faut savoir gérer ses entrants et ses sortants. Alors, pendant longtemps, on a géré que les entrants, c'est pas soucié de ses sortants. Aujourd'hui, les sortants, on va se poser la question de savoir si c'est pas des choses qui peuvent être valorisées. Et elles peuvent être valorisées, bien évidemment. Donc, ça veut dire qu'il faudra gérer au plus près ces flux. Il faut optimiser les rendements productifs. Il faut réduire les risques financiers, mais aussi technologiques. Hein, vous avez vu Fukushima, par exemple, que les enjeux technologiques sont des enjeux qui sont particulièrement importants, surtout dans les grandes industries. Donc le XXe siècle, c'est la période du tout productif, comme je vous ai dit, seuls indicateurs rentabilité et performance économique. Et ça, aucun industriel va vous contredire dans ce domaine-là. Si vous êtes ni rentable sur le plan économique ou sur le plan, je dirais, purement technique, eh bien vous n'êtes pas performant et donc vous êtes voué à la mort. Et de plus en plus, eh bien, on voit les pays en émergence qui viennent, dans votre plate-bande, produire à moindre coût. Alors, il faut garder la compétition, il faut garder, bien sûr, mais il faut aussi garder la qualité. Et ça, la qualité, c'est quelque chose qui va sauver nos pays, j'irais, industrialisés. Donc, les cycles et procédés sont basés sur l'abondance de matières premières. Hein, la nouveauté, depuis quelques années, depuis 10 ans, on se pose la question sur l'abondance de matières premières. Est-ce que la matière première, c'est quelque chose qui va perdurer? Ben non, on sait bien que la matière première, c'est quelque chose qui est en quantité limitée. C'est encore plus vrai dans des technologies qui sont tout à fait récentes, on va y revenir. Donc, dans les matières premières, il y a aussi l'énergie. Hein, l'énergie, c'est un enjeu qui est fondamental. Les besoins en énergie, on ne pourra pas croître constamment en énergie. Jusqu'à aujourd'hui, une société industrielle qui évolue, on voit la courbe d'évolution, la courbe, je dirais, de potentiel d'achat ou de bien-être, qui est parfaitement parallèle à la courbe de besoin en énergie. Plus on est moderne, plus on a besoin d'énergie. Donc il faut arriver à découpler l'avenir de l'énergie. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on ait des choix technologiques qui soient beaucoup moins gourmands en énergie. Je vous renvoie vers des exemples comme Kalundborg. Vous connaissez Kalundborg? Danemark? Non, vous n'avez jamais entendu parler de Kalundborg? Alors, les Danois sont forts là-dedans, mais il y a aussi les Canadiens qui sont très forts là-dedans. Vous savez que le développement durable, l'éthique développement durable vient du Canada. Donc, c'est les premiers qui en ont parlé. Kalundborg, il y a 7 industries qui sont maillées. C'est-à-dire qu'on a réfléchi sur le site industriel en disant, l'industrie A, elle a besoin de matières premières. Si elle trouve la matière première dans l'industrie C, c'est parfait. Donc, ce que va produire en déchets l'industrie C sera matière première de l'industrie A. Et on a pu mettre en place comme ça cette industrie qui tourne quasiment en autarcie. Alors l'énergie, bien sûr, vient de l'extérieur, c'est de l'énergie hydraulique essentiellement. Donc on a un exemple concret de maillage industriel qui ressemble de plus en plus au biomimétisme, c'est-à-dire à ce que fait un petit peu la nature. Hein, la nature, quand un arbre pousse, il prend l'énergie là où elle est, et il prend les matières premières là où elles sont, et puis à la fin, quand les feuilles tombent, eh bien elles redeviennent de la matière première de l'arbre qui va repousser derrière. Donc c'est une espèce de cycle. Donc ça s'appelle du biomimétisme, et je suis persuadé que l'industrie de demain, qui sera performante, sera une industrie qui va mimer un petit peu ses besoins naturels, puisque la nature a toujours travaillé à moindre énergie. Donc ça, c'est extrêmement important. Hein, vous voyez que l'énergie, c'est un enjeu qui est fondamental, et que il faudra qu'on mime cette nature pour minimiser notre énergie. Si un Boeing 747 utilisait la même technique de vol qu'une libellule, ça on ne sait pas la reproduire, mais si elle pouvait avoir la même technique de vol, on économiserait 70% de kérosène. Donc on a intérêt à relever le défi. Hein, voilà, je vous ai dit, voilà les défis à relever demain. Ce sont ces défis-là qui sont sacrément intéressants et qui ne sont pas à l'opposé de ce que l'information vous donne, c'est-à-dire, hein, demain c'est noir. Moi je dis demain c'est pas noir, c'est blanc, il y a plein de choses à faire. Voilà, donc, l'augmentation des quantités produites génère des impacts environnementaux, c'est évident, qui sont de plus en plus significatifs. On prend conscience, dans les années 60-70, que notre activité industrielle va perturber les cycles naturels. C'est pas plus vieux que ça. Année 70. Première loi sur l'eau, 1966. Donc vous voyez que c'est dans ces années-là qu'on se rend compte que notre activité industrielle peut perturber de manière durable notre environnement. Et donc il y a un certain nombre de lois qui sont nées à cette époque-là pour arriver aujourd'hui. Hein. Donc vous voyez, loi sur l'eau, 1985. Les États-Unis sont les premiers à prendre un certain nombre de lois où les industriels sont obligés de déclarer les rejets de matières dangereuses. Alors c'est une simple déclaration. Hein, vous verrez que dans les installations classées pour la protection de l'environnement, vous avez différents niveaux et parmi ces niveaux, vous avez ce qu'on appelle le niveau de déclaration, c'est-à-dire que l'industriel déclare au préfet, donc aux autorités à l'Andréal exactement, hein, va déclarer ce qu'elle fait. Après, quand on est au niveau au-dessus, quand on a des impacts significatifs, on passe de déclaration à autorisation. Donc avant d'exploiter, on va demander l'autorisation de le faire et là on va avoir des contraintes beaucoup plus fortes, évidemment. Donc le développement implique la généralisation, donc simplement fort des plus grandes pressions qu'on a sur l'environnement, eh bien vous avez vu ces derniers temps, c'est en train d'augmenter de plus en plus la flambée des matières premières, donc ça gêne beaucoup l'industrie, parce que pendant très longtemps l'industrie a beaucoup misé sur la stabilité des prix. Et si les prix fluctuent de manière très importante, hein, si vous êtes industriel, vous allez faire vos budgets pour 2012, là on va commencer à y réfléchir, et puis à partir de la rentrée, on va vraiment faire nos budgets 2012. Donc il va falloir budgétiser les recettes, mais aussi les dépenses, et parmi les dépenses, vous avez les matières premières et l'énergie, et ben, si vous avez des grandes fluctuations de prix, ça sera extrêmement difficile de miser. Pourquoi vous êtes obligé de faire ça? Parce que vous allez être obligé de donner un prix de vente de votre produit, et ce prix de vente, vous allez l'afficher. Et quand vous avez à pâter des clients, ben, il faudra avoir une certaine pérennité dans le temps de ce prix. Donc il faudra que vous jugiez le plus près possible votre coût industriel, et ça, c'est aujourd'hui des paris qui sont extrêmement difficiles à relever. Hein, quand le pétrole, en moins de 2 mois, monte de 30%, eh bien, c'est évident que vous avez des difficultés. Quand la parité euro-dollar bouge de manière très importante, c'est un autre indicateur, eh bien, vous aurez des difficultés à dire, bah, en septembre 2012, quels seront les prix qui seront, je dirais, usités en termes de matières premières ou en termes d'énergie. Ça sera difficile. Donc, vous voyez que les enjeux sont importants quand même. Hein. Donc, les marchés sont déstabilisés. Il y a effectivement une grande diversité d'industries. Il y a aujourd'hui pas mal d'industries dans différents pays qui produisent les mêmes choses avec des procédés qui sont différents. Le choix technologique que vous aurez fait au début est parfois un choix qui sera peut-être un pur hasard, mais à un moment donné, votre choix technologique sera plus avantageux que le choix du concurrent en face parce que votre procédé consomme moins d'énergie et l'énergie est très chère. Donc cette diversité industrielle est aussi une difficulté aujourd'hui de stabilité du monde industriel. Donc, les nations sont également des disparités très importantes. Le pouvoir d'achat des industries, des personnes dans le monde, est très différent d'une nation à une autre. Pourtant, le marché industriel est mondial. Donc ça, c'est des enjeux que vous aurez à relever. Le développement durable est notamment basé sur, je dirais, l'accès aux technologies de l'ensemble du monde social. Et ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc c'est une des difficultés qu'on aura à relever demain. Donc, une chose à laquelle vous aurez à vous confronter encore, c'est qu'on a beau être au 21e siècle, les industriels considèrent que les enjeux environnementaux sont antiproductifs. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Mes masters, mes étudiants du master qui sont des responsables de services environnement industriel, on leur explique constamment que leur travail consistera à systématiquement aller se défendre devant la direction pour montrer que les enjeux environnementaux sont des enjeux qui sont productifs. Donc il faut des arguments pour ça. Il faut des arguments. Et il y en a des arguments, bien sûr, mais parfois c'est difficile à être convaincant. Donc, prise de conscience que le système actuel donc, est basé sur la stabilité des marchés, donc il a atteint sa limite. Les ressources sont limitées. Alors je vous disais tout à l'heure, exemple avec les terres rares. Vous avez vu qu'il existe aujourd'hui des écrans télévision LCD. Ces écrans télévision LCD, il existe d'ailleurs, c'est les mêmes composés qu'il y a dedans, dans les aimants des éoliennes. Qu'est-ce qu'on utilise dans les aimants des éoliennes? Il faut des champs très intenses dedans. Donc pour avoir des champs très intenses, les bobines sont faites avec des terres rares, et notamment sont faites avec des éléments comme le dysprosium. Donc le dysprosium est un élément qui n'était pas du tout utilisé il y a 10 ans, qui est aujourd'hui utilisé dans les écrans LCD, qui est utilisé dans les éoliennes, Et le dysprosium est une terre rare. C'est le 65 ou 66e élément en abondance sur la croûte terrestre. Donc ça veut dire qu'on estime que ce produit-là, il sera quasiment épuisé dans une dizaine d'années. Donc vous voyez que la technologie vient de naître et que demain on sera confronté à la difficulté de renouveler cette technologie par rapport au manque de terres rares. Les terres rares, elles sont utilisées à quel endroit aussi? Un endroit que vous avez dans votre poche tous les jours. Non, je dis, les terres rares, le lithium, ce n'est pas une terre rare, hein, c'est un alcalin, ça, le lithium. L'europium, le dysprosium, le gadolinium. Ces éléments-là, on les utilise où? C'est la série des lanthanides. Hein, vous avez vu dans la classification des éléments, les deux lignes dessous, il y a les transuraniens, et puis il y a les lanthanides, ce qu'on appelle les lanthanides, c'est-à-dire les terres rares. L'holmium, l'europium sont utilisés dans les euros. Vous avez vu que ces billets que vous avez, ils sont fluorescents. Quand vous les mettez sous une lampe UV, vous avez des dessins qui apparaissent dessus. Eh bien, ce sont les terres rares qui donnent cette fluorescence. Donc, il y a des terres rares dans les billets. Donc, vous voyez, c'est des utilisations qui sont assez journalières et pourtant, on ne le sait pas. Hein. Les éoliennes, donc j'ai donné l'argent, les billets, et puis les écrans plats, par exemple, les écrans LCD. Donc c'est de plus en plus sollicité, pourtant ce sont des éléments qui sont particulièrement non abondants sur Terre. Votre collègue a donné le lithium, où est-ce qu'on s'en sert du lithium? On s'en sert dans les batteries, et il n'y a qu'un seul pays en Amérique du Sud qui le fabrique, qui a la lithine donc, qui permet de faire le lithium. Et le lithium, depuis qu'on sait qu'on va faire des voitures électriques, son prix a été multiplié par 5, hein, comme matière première. Donc voilà un exemple d'évolution des matières premières, et voilà un exemple des choix technologiques qui sont faits demain par rapport à la ressource. C'est extrêmement important. Ça, c'est le travail des chercheurs, c'est notre travail, ça, hein, d'essayer de mettre des technologies pérennes par rapport à l'abondance des éléments sur Terre. Donc, les impacts environnementaux, j'en liste quelques-uns très importants qui ont donné des décisions ou qui vont donner des décisions. Vous connaissez Céveso? Probablement. Quelle année?
1976.
Très bien, 1976. Donc c'est la seule catastrophe industrielle qui n'a pas créé de mort directe. D'accord? Et pourtant, c'est la catastrophe industrielle qui a été à l'origine de la directive Céveso, qui est la directive qui gère toutes les installations industrielles dangereuses. D'accord? Il y a même la directive Céveso 2 qui est particulièrement restrictive par rapport à Céveso 1, notamment les effets domino. Hein. Vous savez que quand il y a une industrie qui peut avoir un impact sur une autre industrie, il faut en tenir compte dans Céveso 2. Donc, vous avez aussi Bâle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Bâle, là? C'est l'incendie dans une industrie qui a pollué le Rhin jusqu'à l'embouchure. Et donc, il y a eu un impact environnemental extrêmement fort. Hein, donc, c'est où, ça? C'est en Suisse, bien sûr. Tchernobyl, vous connaissez? C'est 10 ans après Céveso. Et puis, plus précis, plus près de nous, l'accident de Fukushima. Donc là, vous êtes dans des domaines où l'accident industriel va avoir des conséquences pendant des siècles. Donc ça veut dire que la technologie, le choix, est très important dans ce domaine-là. Alors, des grands composés, les grands problèmes environnementaux. Vous avez les CFC. Qu'est-ce que c'est que les CFC? Composés fluorocarbonés. Donc les composés qui sont à l'origine de la dépression de la couche d'ozone. Premier problème environnemental global, dépression de la couche d'ozone, prix Nobel 1986 de chimie, donné à Crutzen et Molina, qui sont des gens qui ont travaillé sur l'origine de la dépression de la couche d'ozone, donc les composés chlorofluorocarbonés. Vous avez les POP. Qu'est-ce que ça veut dire, POP? Dans les POP, vous avez les pesticides. Ça s'appelle les composés organiques persistants, c'est-à-dire des composés organiques qui sont libérés dans l'environnement et qui vont perdurer pendant des dizaines d'années. Le dichlorodiphényltrichlorethane, le DDT, fait partie des POP. On a utilisé le DDT dans les années 70 et on en trouve encore dans les calottes polaires, parce que ces composés sont très stables et sont chimiquement actifs, donc vont avoir un impact sur l'environnement, évidemment. Les organométaux, les pesticides, qui sont à force rémanente, donc c'est des nouveaux problèmes. Nouveau problème environnemental, les hormones. Aucune station d'épuration des eaux des villes est capable de traiter les hormones. Et pourtant, on se rend compte que dans certains fleuves, il y a des poissons qui changent de sexe. Parce qu'ils sont sensibles. Et ils changent de sexe, pourquoi? Parce qu'il y a les hormones, notamment la pilule contraceptive, qu'on retrouve à l'état, je dirais, d'ultra-trace, mais très active, et qui peut avoir un impact sur le vivant. Donc voilà des problèmes environnementaux à relever. Alors les technologies, les nouvelles technologies, vous avez entendu parler des nanotechnologies. Grenoble est le berceau des nanotechnologies. On se pose des questions sur les nanomatériaux. Ces nanomatériaux qu'on peut respirer, qui peuvent avoir un impact sur notre santé. Donc c'est des questions, des sujets qu'on aura à relever. Et puis les grands problèmes, évidemment à grande échelle, qu'on connaît très bien, le climat, les ressources, l'ozone. Hein, les modifications de climat qui peuvent être impactées par les gaz à effet de serre notamment. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quels nouveaux défis face à ces nouveaux enjeux? À votre avis, est-ce qu'on doit repenser ou adapter les systèmes existants? Quel est votre avis là-dessus? Vous en avez un? Les deux? Moi je pense qu'on a les deux à faire, c'est évident. D'abord changer, d'abord adapter, et puis après changer. Vous savez que changer un procédé, ça coûte très cher. Donc ça sera le deuxième niveau de choix à faire, mais adapté aux nouveaux enjeux. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Alors quels sont les paramètres qu'il faut prendre en considération? La question reste ouverte. Bien sûr, l'énergie, je vous ai parlé, les ressources en matière première, mais il n'y a pas que ça. Il y a des enjeux sociétaux. Il y a quels sont les besoins. Quand on fait des choix technologiques aujourd'hui, c'est pour dans 50 ans. Donc, quels seront les besoins humains dans 50 ans? C'est vachement difficile à poser. C'est une question qui est difficile à relever, ça c'est clair. Alors, comment respecter les impacts tout en se développant? Parce qu'il n'est pas question de revenir en arrière. Il faut continuer à se développer. Hein, le développement durable, l'éthique même, il y a le développement. C'est-à-dire continuer à aller de l'avant. Et quelles sont les décisions à prendre, si ce n'est qu'il faut parier sur les besoins du futur, c'est-à-dire qu'on va utiliser des modèles, et quelles sont la crédibilité de ces modèles? Moi, la question, elle reste tout à fait ouverte. On ne peut choisir que sur des modèles de choix de demain, et pourtant, on ne sait pas quels seront les enjeux dans 50 ans. C'est difficile à le savoir. Alors, la question, elle va tourner surtout autour, quelles sont les limites à ne pas dépasser? Alors, vous voyez, par exemple, la température. Quel impact peut-on avoir sur la température sans changer de manière durable le climat? La question reste ouverte. Les experts se battent là-dessus. Certains disent 5%, d'autres 10%. D'autres disent on a déjà dépassé le seuil. Certains disent non, il y a encore de la marge. Donc ça reste ouvert. Les biomasses, un gros problème à relever, la démographie. Est-ce que vous pensez que la Terre est capable de nourrir 60 milliards d'humains? J'exagère volontairement. Mais c'est une question à laquelle il faudra répondre. Les écosystèmes, quelle portion du sol peut-on réserver à l'agrosphère, c'est-à-dire pour nous nourrir, sans modifier de manière durable notre climat? Il faut garder une partie, je dirais, pour la biodiversité qui est nécessaire. Donc c'est une question qui est ouverte. Et puis, la capacité de recyclage d'un milieu. On sait très bien, dans les années 70, nos déchets nucléaires, on les mettait où? On les jetait dans la mer. Parce qu'on pensait que l'environnement était tellement grand qu'il n'y avait pas d'impact, et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des impacts, puisqu'il y a certains crustacés qui nous remontent les éléments radioactifs. Donc vous voyez qu'il faut se poser la question sur la capacité de recyclage, la charge polluante. Alors un exemple très rapide, le CO2 atmosphérique. Donc le CO2 atmosphérique, durée de vie jusqu'à 200 ans, 55% des émissions de gaz à effet de serre anthropiques, c'est-à-dire d'origine humaine, 31% d'augmentation depuis 1750. Donc vous voyez que en France et en Europe, 0,4%. L'émission de CO2 en Europe, c'est 3 tonnes par habitant. En France, c'est la moitié, 1,5. Alors pourquoi en France, on est particulièrement peu émetteur de CO2? Parce que 80% de notre électricité est d'origine nucléaire, et c'est justement une des raisons pour lesquelles les émissions de gaz à effet de serre ont diminué dans les pays industrialisés comme l'Europe. Alors qu'aux États-Unis, vous voyez qu'on est encore à 7 tonnes par habitant, c'est-à-dire quasiment le double, un petit peu plus du double de l'Europe. Alors en Chine, on est beaucoup plus bas. Seulement en Chine, vous savez qu'il n'y a que 70 millions de Chinois qui profitent du développement industriel, alors qu'ils sont plus d'un milliard. Donc c'est l'argument des Chinois, c'est à Copenhague qu'ils l'ont argumenté. Ils ont dit, mais nous on est à 1,2 milliard, si on ramène le taux de CO2 émis par rapport au nombre d'habitants, on est très très bas. Et c'est une des raisons pour lesquelles Copenhague a échoué. Il y en a bien d'autres, mais c'en est une des pour lesquelles c'est un argument qui est difficile à défendre, ça. Alors, vous voyez, quand je dis les paris, aujourd'hui, les spécialistes disent qu'on a dépassé de 6 milliards de tonnes d'émissions de CO2. Donc, notamment, la Convention protocole de Kyoto a misé à une réduction de 15 à 20% des émissions de gaz à effet de serre pour 2018-2020 par rapport à 1990. Donc, c'est pour, justement, avoir un chiffre qui permette de réduire de 6 milliards de tonnes nos émissions de CO2 de façon à revenir à l'équilibre selon les spécialistes. Hein, c'est un pari. Ça, c'est un pari parce que c'est extrêmement difficile à quantifier exactement les échanges de CO2 au niveau mondial. Voilà un des mesures. Vous voyez le CO2, si je prends de 1960 à 2010, donc sur le site du Mauna Loa, c'est-à-dire un site qui est à plus de 4000 mètres d'altitude en plein milieu du Pacifique, donc très loin des zones émettrices, donc on a effectivement une évolution lente du taux de CO2 dans l'atmosphère qui montre bien que son taux augmente. Donc on est à 385 ppm à peu près, c'est-à-dire partie par milliard, donc ça fait à peu près 0,4% à peu près de CO2 dans l'atmosphère. Donc les grands défis à relever, donc vous voyez par exemple l'exemple de l'énergie, on estime qu'aujourd'hui en industrie, en électricité instantanée, il faut qu'on produise dans le monde en instantané à peu près 12 à 13 terawatts pour répondre à la demande. Alors ça fluctue effectivement en fonction de la journée, seulement vous savez que dans le monde le jour et la nuit est alterné, donc on a à peu près une consommation homogène dans le monde. Hein. Donc c'est à peu près ça, on estime qu'en 2030 on sera autour de 17 terawatts. Donc vous voyez qu'il va falloir augmenter considérablement nos ressources d'énergie hein, pour répondre à la demande. Donc les énergies renouvelables sont à fort potentiel. Une étude a été faite à l'université de Stanford montrant que le renouvelable a une potentialité de 300 TWh. Donc ça veut dire qu'on peut répondre. Alors, fort des problèmes que je vous parlais tout à l'heure, dysprosium par exemple, si on veut faire beaucoup d'éoliennes, il va falloir aussi un peu changer de technologie puisqu'on n'aura pas la matière première. Donc voilà. Alors, mettre en place un certain nombre de choses, vous les connaissez, hein, je ne vais pas m'apesantir dessus, vous savez qu'il faut une transition douce, c'est évident, on met en place des taxes à l'émission, on met en place des permis négociables, c'est ce que sont les permis négociables? Ben, l'industrie A, on estime, on a fait une étude entre 1996 et 2000 sur les émissions de CO2. Vous avez émis tant de CO2 par an par rapport à votre production. Donc vous devrez avoir... Alors maintenant, il y a une période qui est finie, la période expectative, c'est-à-dire la nouvelle période 2012-2016. Vous allez avoir des objectifs fixés sur vos émissions de CO2. Donc les objectifs, ça veut dire que les pouvoirs, enfin les politiques, vont vous imposer un quota de CO2. Ce quota, il est imposé par un certain nombre de conventions au niveau d'un pays ou au niveau de l'Europe, et vous pourrez échanger par rapport à d'autres industries. Si vous êtes au-dessus et que vous trouvez un industriel qui est en dessous, il va vous vendre une partie de son droit d'émettre. De façon à ce qu'au niveau de l'Europe, eh bien, on soit dans la Convention de Kyoto, par exemple. D'accord? Donc, ce sont les permis négociables. Alors, vous avez vu qu'il y a eu un scandale autour de la taxe carbone, hein. Notamment, certains industriels qui n'étaient pas très honnêtes achetaient un certain nombre de permis négociables à l'étranger et oubliaient, en les revendant en France, de payer la TVA. On estime qu'un certain nombre d'industriels aujourd'hui doivent à hauteur de 6 milliards d'euros de TVA, d'arriérés de TVA, sur ces permis négociables. Donc voilà un certain nombre de problèmes auxquels il faudra faire face. Alors, le problème, c'est surtout, et je vais assez vite conclure là-dessus, vous avez vu que la difficulté, c'est qu'il faut qu'on ait des niveaux de développement qui soient comparables. Or, les pays en voie de développement qu'on appelle communément les pays du Sud et les pays développés que nous sommes les pays du Nord, eh bien, il faut une certaine, je dirais, homogénéité entre ces différents pays. Et c'est la seule objectif qui a été atteint à Copenhague. Donc je vais vite, hein. Seul objectif, voilà. Donc, Copenhague a eu comme seule, je dirais, donnée positive que les pays du Nord puissent indemniser les pays du Sud de façon à respecter l'impact environnemental le mieux possible, répondre aux grands problèmes. Le principal problème, c'est les gaz à effet de serre. C'est la réduction des gaz à effet de serre, puisqu'on sait que c'est un problème qui va être particulièrement brûlant dans les années qui arrivent, dans les décennies. Donc, il va falloir un certain nombre de référentiels pour répondre à ces objectifs. Vous voyez que les référentiels, vous les connaissez, ISO, vous savez ce que c'est, ça, hein? Vous avez entendu? les référentiels EMAS, qui sont des référentiels plutôt européens, donc qui sont effectivement en accord avec les référentiels ISO. Donc simplement améliorer l'éco-efficacité des procédés, voilà un objectif qu'il va falloir mettre en place. Le rôle renforcé des grands groupes avec la politique de la RSE, qu'est-ce que c'est que la RSE? Qui sait ce que c'est? Responsabilité sociétale des entreprises. Donc ça veut dire que ces sociétés ont une responsabilité vis-à-vis de l'impact sur l'environnement. Donc les grands groupes jouent le rôle, en général jouent beaucoup le jeu. Donc l'analyse du cycle de vie d'un produit, donc vous avez entendu parler d'ACV, quand vous créez un produit, quand vous créez un bien de consommation, il faut tenir compte de sa fabrication et également de son recyclage, c'est ce qu'on appelle l'ACV. Donc c'est les objectifs effectivement du développement durable dont vous entendez parler. Je ne vais pas m'appesantir sur le développement durable, ça c'est un autre débat. Et donc, deux rôles fondamentaux, les consommateurs, qui ont un rôle très important dans ce domaine, et puis vous, c'est ce que je disais au début, vous, pourquoi? Bien parce que vous serez, d'ici quelques années, les nouveaux décideurs industriels, et ces nouveaux décideurs, ben, c'est ceux qui vont permettre de répondre aux nouveaux défis, aux nouveaux enjeux. Alors, je termine. Quels sont ces nouveaux enjeux? Vous le savez? Donc, les deux principaux enjeux à relever, c'est matière première et énergie. Donc, toutes les matières premières, ça veut dire qu'il faudra apprendre à recycler le plus possible ou à mettre en place un certain nombre de choses qui sont modulaires, qui permettent de récupérer une partie du bien. Imaginez une voiture sur laquelle vous pouvez récupérer un certain nombre de choses qui permettent d'être recyclés sans être forcément beaucoup manufacturés. Aujourd'hui, une voiture, on la recycle comment? On la prend, on la casse, on la refond. Donc, parce qu'on en crée une nouvelle. Demain, imaginez que le pare-choc avant, vous puissiez le remettre en état, le récupérer. Que votre téléphone portable, celui d'après-demain, ben, vous puissiez le mettre dans le même boîtier que celui d'aujourd'hui, donc en récupérant l'écran et le boîtier. On imagine jusque-là les nouveaux enjeux à relever. Donc, vous serez les décideurs. C'est vous qui êtes les responsables de demain. Il faut se poser des questions et il faut relever les défis. Hein, vous n'aurez pas le choix. Vous avez à peu près une génération, c'est-à-dire une quarantaine d'années pour relever le défi, pour mettre en place cette révolution industrielle que certains appellent une révolution verte. Moi, j'aime pas trop ça, mais c'est un peu ça quand même. Ben maintenant, je vais vous écouter, vous poser des questions. Alors vous aurez en ligne ma présentation qui sera un petit peu plus complète. Hein.